There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'octobre 2022? Alors, la responsabilité des DevOps lors des cyberattaques, l'état de l'art du DevOps en 2022, Linux et Rust toujours, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille mensuelle autour du cloud et du DevOps. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin, on a des petits outils pour toi, on t'a découvert pas mal de choses. Et avec moi pour en parler ce soir et pour parler d'actu, j'ai René. Bonsoir René.
C'est Christophe. Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes.
Et j'ai aussi Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
On va commencer par la traditionnelle rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et ce soir, on a deux messages. Alors, j'aimerais vous lire tout d'abord le message de Seba, qui nous a laissé sur Actu DevOps de septembre, sur YouTube en l'occurrence. Alors, il fait référence à l'épisode, dans l'épisode où on a parlé d'astuces d'autres trucs sur Go et autres. Et il nous dit « Merci pour l'astuce sur Go ». Lui aussi, il a des problèmes avec Python, car ça commence à le limiter. Et donc, il va rajouter l'outil dont on parle, qui est, je crois, apprendre le Go à l'époque. Et il va le rajouter dans sa to-do list. Bah, du coup, moi, alors j'ai déjà répondu à Seba sur YouTube, mais comme ça, il y aura une réponse plus générale à ce genre de message-là. Alors, moi, je trouve ça super cool, parce que justement, Actu DevOps, c'est fait pour faire découvrir des choses aux gens. C'est pour ça qu'en fait on fait ces podcasts de veille et qu'on se démène tous les, je sais plus combien on est, tous les 8. Je sais pas ce que vous en pensez, René et Arwan, sur ces petits messages là.
Ouais, moi je trouve ça super positif. En fait, parfois on reçoit aussi des petits messages sur Twitter en disant que l'épisode, il a intéressé un petit peu du monde. Ouais, enfin, quelque part pour la motivation, je trouve que c'est vraiment positif et ça donne envie de continuer.
Oui, moi je partage aussi cet enthousiasme, c'est cool. C'est toujours, en plus, c'est un retour positif, donc c'est bien. Et puis moi-même, je dis merci Radio DevOps parce que j'ai mis le training dans les choses que je dois faire et suivre. Et du coup, je l'ai découvert grâce au podcast.
Oui, parce que t'étais pas là lors de l'enregistrement, je crois, pour cet épisode-là. Non ?
Si. Si, j'étais là. Mais si, du coup, je l'ai noté pendant l'enregistrement.
Bon, bah c'est cool. Alors, on a un autre message qui lui nous vient de la plateforme de questions. Je parlerai de la plateforme de questions après, qui nous a été laissé. Par Alexis, qui a utilisé le pseudo Alexis toujours top. Alors j'imagine que c'est pour nous dire que le podcast est toujours top. Et il nous dit « Pour le podcast, je trouve que le générique de début et de fin a un volume un peu trop fort par rapport au reste. En voiture, c'est un peu gênant. » Alors, désolé Alexis, on va tenter de faire des efforts là-dessus, justement avec Luna qui me rejoint sur le podcast et sur tout un tas d'autres trucs. Luna qui est ma nouvelle monteuse, entre autres, que tu croiseras peut-être dans le prochain live des compagnons, pour justement qu'elle vienne nous parler un petit peu de son métier, de son alternance, puisque je l'accueille en alternance sur la partie community management et autres. Donc on va faire des efforts sur le volume sonore. Justement, on va éviter les pubs qui nous cassent les oreilles. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Hein. Je sais pas si vous-même ça vous dérangeait le fait que parfois le générique est un peu plus fort que le reste.
Pas spécialement.
Moi j'allais dire c'est la technique des publicités là pour que ça reste bien en tête.
Exactement. Bon, alors moi, le message que j'ai à dire à toi qui nous écoutes, n'hésite pas surtout à nous dire ce que tu aimerais voir comme sujet à traiter dans les podcasts. Justement, il y a une plateforme que tu trouves dans toutes les descriptions depuis le début. Cette plateforme, c'est question.compagnon-devops.fr. Tu remplis ta question, ça nous envoie directement le message. Moi, je le reçois. Et ça me fait une liste de sujets à traiter. Il y a des gens qui utilisent cette plateforme-là pour nous envoyer des messages, mais c'est plus pour les suggestions. Mais pourquoi pas? Et surtout, comme l'a dit René, motive-nous aussi en nous spammant de messages sur Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube, ou je ne sais quoi, sur le forum aussi tu peux. D'ailleurs, des fois, il faudrait que je prenne des messages du forum. Mais c'est bien, parce que ça nous aide à monter dans les recommandations. Tu peux nous mettre 5 étoiles quand tu peux mettre 5 étoiles, ou tu peux nous mettre une étoile si jamais tu nous aimes pas, mais si tu nous aimes pas, t'es pas en train d'écouter cet épisode. Enfin, j'espère, parce que sinon, t'es vraiment maso.
Après, ce qui peut être aussi intéressant, je pense, c'est si les auditeurs veulent donner aussi un peu des directions pour nous, ça peut, je pense, aussi des fois nous aider à creuser plus certaines choses que d'autres. Voilà, je pense que faut pas hésiter, en fait.
Exactement. Alors, Erwan, tu vas nous parler de responsabilité DevOps dans des événements tragiques.
Oui, et on va faire référence du coup à la cyberattaque qui a fait un peu parler d'elle récemment qu'a subi l'hôpital de Corbeil-Essonne. Donc on va vous parler de tout ça. Bien sûr, on aurait pu parler de plein d'autres choses, parce qu'il s'est passé plein de choses dans le monde de l'IT en général, comme la super étude, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dit que 90% des équipes DevOps aimeraient rajouter de l'IA pour être plus efficace au travail. On ne sait pas trop qui sont ces 90%, mais bon, très bien. Ou on aurait pu parler de la publicité dans la CLI d'Ubuntu quand vous faites un APT Get Update qui est en train de déchirer Twitter au moment où nous parlons, où nous enregistrons, pardon. Mais donc, on va parler de cette cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonne. Alors, on va rappeler rapidement les faits. C'était dans la nuit du 20 au 21 août. L'hôpital a subi donc une attaque de type ransomware. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le ransomware, c'est une attaque qui consiste à bloquer l'accès à des ressources et à demander de l'argent pour débloquer cet accès. Donc typiquement, les attaquants chiffrent par exemple votre base de données et vous disent donne-moi des sous et je te donnerai la clé pour déchiffrer la base de données. Ici, on est dans le cas du logiciel Logbit qui a été utilisé donc contre l'hôpital de Corbeil-Essonne. Et qui est le nom aussi du collectif, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un collectif, mais du groupe de hackers qui est derrière l'attaque. C'est un groupe qui est assez actif dernièrement, qui est connu depuis à peu près 2019, et qui avait fait un peu parler de lui récemment pour l'attaque du site de la Poste Mobile, qui avait été totalement done avec un downtime assez important suite à leur attaque. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme convenu, ils ont demandé des sous pour débloquer l'accès et ils ont mis un ultimatum pour dire si le 23 septembre vous ne faites rien, on diffusera de la data de vos clients, etc. Bien entendu, le 23 septembre, pardon, l'hôpital n'a pas payé. De toute façon, ils n'avaient pas le fameux million de dollars qui était demandé. Et donc, du coup, le groupe de hackers a diffusé une archive de plus de 10 gigas, de plus de 10 gigas avec tout un tas de screenshots des datas. Et les datas qui ont été diffusées, ça concerne aussi bien les patients que les partenaires ou que le personnel. Donc c'est quand même assez varié. Et bien entendu, elles ont été authentifiées comme étant vraies. Donc du coup, c'est clairement pas du bluff. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, il faut savoir que récemment, donc j'ai plus la date, je pensais que j'avais noté, mais c'est genre il y a une ou deux semaines, il y a une association qui se nomme l'Union nationale des associations citoyennes de santé, qui a entamé des démarches pour engager la responsabilité de l'hôpital vis-à-vis de cette attaque. Il faut savoir que légalement, se faire attaquer, on peut pas se faire... légalement, on peut pas être puni pour s'être fait attaquer. Déjà, on se fait attaquer, si en plus on dit que c'est de notre faute, voilà. Par contre, l'absence de réaction, d'accompagnement et de transparence, ça, c'est légalement répréhensible. Et en l'occurrence, dans le cas de l'hôpital, même si on n'a pas les détails de l'action ou quoi que ce soit, ça a été quand même assez transparent. Il y a eu pas mal de communication, il y a des gens qui ont... Enfin, il y a tout de suite des experts et tout qui ont été mobilisés, donc on peut dire qu'en tout cas, en termes de moyens, ils ont essayé de faire ce qu'il fallait. Mais bon, donc il y a les démarches pour engager la responsabilité de l'hôpital sont lancées. Quel que soit le résultat de cette procédure, parce que c'est en cours, hein, donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'il en est, l'affaire rappelle que les victimes d'un piratage peuvent malgré tout avoir une responsabilité juridique vis-à-vis des utilisateurs. Donc, ce n'est pas parce qu'on se fait attaquer que du coup, on est, surtout quand on a des responsabilités de stockage de data comme un hôpital, en fait, on a une obligation de moyens, en gros. Et concrètement, si cette obligation de moyens, elle est pas vérifiée, auditable, ce que vous voulez, oui, on peut avoir des problèmes. Et là où je veux en venir, et c'est là où la question ouverte va se poser, c'est jusqu'où on remonte dans la chaîne de responsabilité là-dessus, et qui va être responsable ? Est-ce que c'est les grands chefs ? Est-ce que c'est les leads de l'équipe de l'infra ? Est-ce que c'est justement le sysadmin qui est au bout de chaîne, etc., etc. La chaîne de responsabilité, elle est quand même pas si évidente que ça, et puis il n'y a pas de, en tout cas j'ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé de jurisprudence très 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 évidente sur le sujet. Juste en cherchant un petit peu, j'ai vu que aux États-Unis, alors bon, c'est pas chez nous, mais bon, c'est quand même toujours bon à apprendre. Aux États-Unis, il y avait l'ancien chef de la sécurité informatique chez Uber, qui s'appelle Joseph Sullivan. Il avait été poursuivi et condamné en 2016, pour avoir dissimulé une attaque informatique qui a eu pour conséquence la divulgation de données de millions de personnes d'utilisateurs de la plateforme. Donc du coup, voilà, j'ouvre la question. Est-ce que moi, en tant que SRE, DevOps, whatever, parce que j'ai oublié de faire un apt-get update ou parce que j'ai pas les outils qui vont bien pour faire l'update de mes services, de mes serveurs, de mon hardware, de ce que vous voulez, est-ce que je suis directement visé par ce genre de procédure, et est-ce que ma responsabilité, est-ce que en gros je peux finir en prison parce que j'ai pas mis à jour la dernière version du Docker Engine ou des choses comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça vous évoque, mais comme c'est pas non plus si anodin que ça que des associations suite à des attaques en gros demandent des comptes sur les moyens qui ont été mis en place pour justement contrer les attaques. Ça me semblait intéressant d'évoquer ça, sachant que l'hôpital lui-même, je pense qu'il risque pas grand-chose parce qu'il va se retourner vers son prestataire. Mais après, encore une fois, voilà, le prestataire, qu'est-ce qu'il risque ? Et surtout, qui chez les prestataires, dans cette chaîne de travail, qui est responsable ? Est-ce que c'est le chef, le lead, le mec en bout de chaîne, etc., etc. Je rajouterai pour finir que des attaques, il y en a tous les jours, tout le temps. Dès que vous avez une machine qui est sur Internet, enfin qui est pluguée publiquement, elle se fait constamment attaquer, pinguer, etc. Enfin, il y a toujours des gens pour essayer de trouver quelque chose. Donc se faire attaquer, c'est pas exceptionnel. Se faire percer, c'est malheureusement de moins en moins exceptionnel, mais on espère quand même que ça l'est, mais beaucoup moins. Mais avec des attaques de cette envergure, ce genre de questions, ce genre de, du coup, entre guillemets, de démarches judiciaires, pourraient se multiplier. Et donc, du coup, Du coup, je trouvais que c'était intéressant d'évoquer le sujet. René, est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que ça te fait peur maintenant de faire du run sur des machines? Raconte-nous.
C'est pour ça que je fais plus de run, en fait. Non, bah après, c'est compliqué parce que pas juriste, en fait. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent sur ce qu'on peut dire. Je pense que peut-être le dépôt de plainte ici, il est pour essayer de voir s'il n'y a pas eu une négligence. Et à partir du moment où il n'y a pas spécialement de négligence et que l'hôpital a suivi, je pense, les recommandations ou les normes en termes de sécurité, voilà, je pense qu'il n'y aura peut-être pas probablement pas de suite. Après, j'imagine que c'est un peu comme une. Enfin, l'hôpital est vu un peu comme une personne morale. Je pense que s'il y a une procédure, ce sera contre la personne morale et l'entreprise et pas contre des individus. Enfin, j'espère. Bon, après, c'est quand même un sujet assez touchy. Et je pense qu'il faut des gens qui connaissent le droit pour vraiment démêler un peu la pelote. Voilà, est-ce que toi, Christophe, tu en sais plus sur le sujet? Je pense que, ayant une entreprise, tu es certainement plus au fait de ce genre de choses.
Ouais, j'ai plein de choses à dire. Y a plusieurs choses. La première, je vais aborder la procédure judiciaire. Quand tu lances une procédure judiciaire, tu peux avoir plusieurs objectifs. Le premier, ça peut être de demander réparation. Ça peut être un premier objectif, donc demander réparation financière, faire évoluer les lois aussi, mais c'est moins le cas. Ou, plus que je pense au vu de ce qu'a dit Erwan, obtenir des réponses. Parce que si j'ai bien suivi, Erwan, il n'y a pas eu une transparence, et peut-être qu'elle n'est toujours pas là, la transparence, et ouvrir un procès, c'est une manière pour obtenir des réponses, parce que les parties, elles doivent apporter des réponses. Donc, clairement, la transparence via une procédure. C'est fait régulièrement, hein, le fait de lancer des procédures judiciaires pour obtenir des réponses et pour avoir des réponses à certaines questions. La deuxième chose que je voudrais apporter, c'est la responsabilité pénale, et pas la responsabilité professionnelle, la responsabilité pénale. Si jamais quelqu'un, dans un cas comme ça, il y a forcément quelqu'un qui va ou pas payer. Si il y a une mise en cause d'une personne, je ne sais pas comment ça se passe dans les collectivités ou dans l'État. En tout cas, quand tu es une entreprise, il y a une personne qui est responsable. C'est toujours la même, c'est le chef d'entreprise. C'est-à-dire que ça ne redescend pas aux employés. C'est l'employeur qui est responsable et c'est lui qui prend tous les risques pénaux. Ça veut dire que toi, Erwan, si tu fais une bêtise, que ton entreprise, c'est un exemple, hein. Évidemment, t'as pas fait de bêtises, mais puisque c'est toi qui posais la question, si ton entreprise, elle est mise en cause et qu'elle perd et qu'il y a peut-être de la prison à faire, c'est pas toi qui vas la faire, c'est le directeur de l'entreprise. Parce que c'est lui qui porte la responsabilité pénale et pour la simple et bonne raison que c'est lui qui porte le lien de subordination. Comme toi, t'es subordonné à quelqu'un, tu peux pas avoir la responsabilité. Pénalement, je veux dire, dans une entreprise. Le dernier truc, c'est, mais là on sort du cadre du procès, c'est la responsabilité professionnelle. En effet, nous, en tant que professionnels de la tech, on a une responsabilité à bien faire les choses, parce que c'est pas parce que tu vas pas faire de prison que tu seras peut-être pas viré de ton entreprise parce que tu auras fait une boulette. C'est pas souhaitable, hein, mais voilà. Donc là, c'est à nous aussi de travailler nos compétences avec nos collègues pour justement bien faire les choses. Et le dernier truc que ça m'évoque, c'est, je suis désolé, je fais un long monologue. Le dernier truc que ça m'évoque, c'est le qui communique et qui prend l'initiative de communiquer. Et ça, je pense qu'on l'a abordé dans l'épisode de podcast où on a parlé des astreintes, il me semble, et de la prod. Je ne sais pas si on a parlé de ça, de la chaîne de fait de communiquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est au courant parce qu'on a des alertes, on remonte ça aux cellules de crise, les cellules de crise remontent ça aux communicants, les communicants font des blog posts, etc., etc. Ça va plus vite dans une start-up, hein, que dans une grande entreprise multinationale. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à aux questions que tu te posais, ou si ça te paraît logique ce que j'ai dit.
Ah si, moi j'avoue que je savais pas trop tout ça, donc déjà merci. Et surtout, j'imaginais trop me retrouver en prison parce que j'avais pas fait l'upgrade qui allait bien et partager ma cellule avec un mec qui a tué 3 personnes. Ça aurait été chouette. Hein.
Après, par contre, si l'employé a fait vraiment du... Enfin, je pense qu'il y a quand même des situations où tu peux ramasser, mais si vraiment tu as fait du sabotage ou tu as vraiment nui à l'entreprise, j'imagine.
Ouais, mais là, c'est l'entreprise qui se retourne vers toi. C'est encore un autre sujet. Et après, je suis pas non plus super connaisseur, mais je crois qu'il y a des différences entre la loi pénale et le droit criminel. Donc, je pense que tu risqueras pas de te retrouver dans une cellule où il y a quelqu'un qui a tué des gens, mais peut-être que tu te retrouveras dans une cellule où il y a des gens qui ont volé ou je ne sais quoi. Si ça peut te rassurer, je ne sais pas.
Ah, je dormirai mieux ce soir, c'est ouf.
Tu dormiras mieux ce soir. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le sujet ou est-ce qu'on embraye ?
On avance.
Allez, ben on va embrayer. Alors, c'est moi qui embraye. J'embraye et je vais vous parler du rapport Accelerate State of DevOps 2022. Donc ce rapport, il vient de sortir et on apprend justement en 2021 que plus de 22 milliards d'enregistrements ont été exposés en raison de piratages divers. On en a déjà largement parlé dans Actu DevOps des épisodes précédents, et Erwan vient justement de nous en parler. La sécurité continue à être une priorité pour les organisations, on vient juste de le voir. Donc, l'équipe de recherche et d'évaluation DevOps, le fameux DORA, a décidé de se concentrer cette année sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Si, vous savez, le fameux pipeline CICD. Alors, pour ceux du fond qui dorment près du radiateur, au cours des 8 dernières années, près de 33 000 professionnels du monde entier ont participé à l'enquête Accelerate State of DevOps. C'est la recherche la plus importante et la plus ancienne de ce type. On y apprend beaucoup de choses sur l'état de l'art concernant le déploiement, mais aussi sur les performances opérationnelles et organisationnelles. Pour analyser la relation entre la sécurité et le DevOps, les chercheurs ont utilisé le fameux framework Supply Chain Level of Security Artifact, le SLSA, ainsi que le Secure Software Development Framework, le SSDF, du NIST, N-I-S-T. Oui, alors je dis fameux, mais j'ai appris l'existence en lisant la news. Le premier constat étonnant, et en effet c'est vraiment étonnant de le lire, c'est une adoption assez large des pratiques de sécurité de la majorité en fait des personnes interrogées déclare une adoption au moins partielle de chaque pratique questionnée. C'est-à-dire que dans toutes les questions où on posait des questions sur les pratiques, il y a finalement une grande majorité des personnes qui disaient « bah ouais, j'ai fait ça ». Au moins partiellement. Parmi toutes les pratiques promues par le SLSA et le NISTSSDF, je vais pas y arriver. L'utilisation de l'analyse statique de code dans un pipeline CICD est la pratique la plus courante et elle concerne 63% des personnes qui ont répondu. D'autre part, la préservation de l'historique du code et l'utilisation de scripts de build sont également très bien établis, tandis que la signature des métadonnées et la revue par 2 personnes ont vraiment progressé. Alors il y a un graphique, vous pourrez aller le voir sur le site que je vous mets en description, qui met en place tout un tas de pratiques et leur degré en fait de progression par rapport aux années précédentes. Autre point surprenant, c'est que le principal facteur prédictif des pratiques de sécurité logicielle d'une organisation était d'ordre culturel et non technique. Par exemple, on apprend que, comme c'est étonnant, les cultures à forte confiance et à faible blâme, axées sur les performances plutôt que justement... Ah là là, je me suis perdu. Plutôt que les organisations où la confiance est partie en congé et où les rapports humains sont basés sur le pouvoir et les règles, ça marche mieux. comme c'est étonnant. C'est pas comme si on le répétait à chaque épisode. Alors, le résultat démontre que les équipes se concentrent sur les pratiques de sécurité, ont aussi réduit l'épuisement des développeurs. Alors là, je pense que ces développeurs au sens large, les ops font partie des développeurs dans ce genre de rapport. Les données indiquent aussi que la culture organisationnelle, les processus de développement moderne tels que l'intégration continue sont les principaux moteurs de la sécurité logicielle et constituent le meilleur point de départ pour les organisations qui cherchent à améliorer la sécurité de leur code. Bingo, le DevSecOps, c'est juste du DevOps. Donc, le rapport d'Aura valide mon point de vue de plusieurs épisodes en avant. Au moment où on enregistre ce podcast, il est sorti ce matin. Donc, on apprend tout un tas d'autres trucs. Je vous laisse aller lire le rapport plus en détail, parce que c'est super intéressant. Et moi, justement, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parce que, en tant que créateur de contenu DevOps, c'est en effet une base de travail pour mes contenus et aussi mes formations. Mais vous, est-ce que vous lisez le rapport d'Aura toutes les années ou pas?
Je dois confesser que non. Alors, donc voilà, non, j'avoue que je découvre un peu ce rapport. Je suis pas ça de très très près.
Oui, moi non plus. J'en avais entendu parler puisque tout ce qui tourne autour de méthodes accélérées, etc. C'est des choses qu'on m'avait pas mal poussé dans mes précédentes expériences. Mais par contre, je suis pas hyper assidu sur le rapport de, enfin le contenu du rapport que tu viens de partager là.
Ben, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est intéressant. J'en parle régulièrement dans mes formations et dans mes cours, parce que dans ce rapport, on a des chiffres qui prouvent, mais vraiment, c'est chiffré, hein, c'est une étude scientifique, c'est chiffré, qui prouve que le DevOps, c'est la mise en place des pratiques, des méthodes et des outils, accélère les choses, réduisent le taux d'erreur, etc. Enfin, c'est pas juste du blabla, quoi. Et donc ce rapport prouve bien que le DevOps apporte quelque chose. On parlera de la mort du DevOps dans un autre épisode, j'ai bien envie d'en parler. Apparemment ça vous évoque pas plus de choses que ça, donc je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que toi qui nous écoutes dans ton podcast, si justement tu lis ce genre de rapport ou que tu veux en venir en parler, eh ben tu peux venir sur la communauté des compagnons du DevOps, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, tu viens, on est plein, on est déjà plus de 1000, on discute entre nous, on s'entraide aussi, s'il y a des questions, parfois on répond, et c'est vraiment le lieu pour pouvoir échanger, peut-être trouver un mentor, ou toi-même, si tu as envie de passer tes connaissances à quelqu'un, tu peux trouver des apprentis virtuels, on va dire, dans cette communauté, puisque j'essaye de promouvoir le compagnonnage, d'où le nom des compagnons du DevOps. Alors, René, tu vas nous parler de ton langage préféré, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ouais, bah il y avait longtemps quand même. On n'avait pas parlé un petit peu de Linux et de Rust, il y a longtemps que je suis pas venu en fait. Pour ça. Oui, bah en fait, il y a quelques épisodes, on annonçait en fait que Linus Torvald avait donné son accord pour expérimenter un petit peu la possibilité de faire des drivers en Rust. Et puis ben aujourd'hui c'est plus tout à fait une expérimentation, parce que à l'heure actuelle on est le noyau en cours de développement est le noyau 6.1, donc on est sur les release candidates, donc les futurs on va dire ce qui va devenir la version finale du 6.1. Et Apache Lite Emerger qui officialise le support et toute la mécanique pour pouvoir créer des drivers en Rust, les compiler, etc., etc. Donc ça, c'est voilà. Donc, il y aura quelques liens dans les notes de l'épisode là-dessus. Donc voilà, ça va devenir effectif à partir de très prochainement. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en lien avec cette news-là, il y a ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une personne, enfin plusieurs personnes qui ont travaillé sur un driver pour Apple Silicon. Toute la gamme de nouveaux Mac à partir de chip ARM. Il y a une distribution qui s'appelle Asahi Linux, qui vise à pouvoir utiliser Linux sur ce type de matériel. Et donc, dans un premier temps, ils se sont attachés à faire en sorte que Linux tourne sur la puce ARM. Et il restait encore un gros morceau, c'est le GPU. Donc pendant, je pense, à peu près 6 mois, Apple fournit très peu de spécifications techniques. Donc tout se fait par reverse engineering. Donc ils ont analysé en fait le GPU pour voir comment il marchait. Et y a quelqu'un qui a fini par développer un driver en Rust pour Apple Silicon. Et ce driver est arrivé à un niveau de maturité où il est capable de faire fonctionner un environnement Linux avec de la 3D dedans, c'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu qui fonctionne avec l'accélération graphique, GNOME qui fonctionne avec l'accélération graphique, etc., etc. Bref, un niveau d'avancement assez très correct, compte tenu du fait que ça vient vraiment de sortir il y a très très peu de temps. Et l'autre aspect intéressant, c'est que cette personne, alors gros niveau, elle a fait deux choses en fait. Elle a fait des streams sur le sujet. Personnellement, j'ai pas le temps pour trop les suivre, et puis je pense que je suis pas forcément câblé pour les suivre, mais ou du moins pas forcément assez de temps pour arriver à rentrer dedans. Mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment se plonger, je pense que c'est des streams qui peuvent être intéressants, mais bon, clairement très techniques. Et surtout, elle a fait un retour d'expérience sur ce que ça lui a apporté de créer ce driver en Rust, alors que c'est tout nouveau. Et le retour d'expérience, je vous laisserai aller lire plus en détail, mais il est vraiment, globalement, plutôt très positif, en disant que ça lui a permis d'éviter un certain nombre d'écueils et d'arriver assez rapidement à une solution qui fonctionne et qui soit viable. Donc voilà, c'était un petit peu pour donner un petit éclairage sur ce qui se passe et un petit peu les bénéfices d'avoir un petit peu la possibilité de créer des nouveaux drivers dans ce langage-là. Voilà, je vous laisse réagir si vous souhaitez.
Ouais, alors je vais commencer parce que en tant qu'ancien développeur C, je connais pas bien Rust. Faudrait peut-être que je me penche dessus pour voir la différence de syntaxe entre le C et le Rust. Je me pose une question justement que je connais pas bien Rust. Le Rust, c'est un langage compilé ou un langage interprété via une JVM? J'imagine que c'est compilé, hein, parce que sinon ce serait pas...
Ouais, pour faire du bas niveau en fait à ce niveau-là, ouais, t'es forcément compilé.
Moi, je me pose une question parce qu'avec l'émergence du Go et le Rust, pourquoi le Rust plus que le Go? Qu'est-ce qui fait que ça fait pencher la balance d'un côté et de l'autre? Est-ce que c'est des contraintes de licence, de supporteur? Est-ce que c'est autre chose?
Il y a une différence assez notable, c'est que Go utilise un garbage collector, donc il y a un système pour gérer la mémoire et éviter les problèmes, et Rust n'utilise pas de garbage collector, il utilise une autre méthode, on va dire, et de ce fait là, c'est parfois un peu plus, pour le très bas niveau, c'est un peu plus adapté. Voilà. Après, je pense que c'est une des raisons. Après, il y a d'autres raisons. C'est que vraiment, Rust a été fait pour adresser des problèmes sur le bas niveau. Donc tout est, on va dire, adapté à pouvoir faire ça. Et aussi, il y a un focus assez fort pour essayer vraiment garder un maximum de vitesse, voilà, c'est-à-dire essayer de garder, avoir un peu un triptyque qui était assez difficilement conciliable, c'est-à-dire de la sécurité, au niveau de la gestion de la mémoire, de la rapidité. Et après, il y a un autre avantage, c'est que c'est aussi quand on fait de la concurrence. Voilà, ça aide aussi quand on fait des programmes multithreadés à éviter de se prendre les pieds dans le tapis et de se cracher, en fait.
J'imagine que Rust est plus développeur friendly que le C, parce que je me rappelle quand même avoir bien souffert. J'en ai fait pendant plusieurs années du C, et j'avoue que
je suis pas sûr de ça, en fait. C'est pas forcément. Non, c'est pas sûr que ce soit forcément plus développeur friendly en tant que tel, parce qu'il y a une syntaxe qui est quand même assez, enfin, qu'il faut appréhender. Mais par contre, la grosse différence, c'est que tu peux pas tirer une balle dans le pied. En fait, en C, c'est très facile de faire une erreur, et l'erreur est humaine. Donc voilà, c'est très facile, en fait, de faire une erreur et de rendre le programme complètement instable. Et donc, du coup, comme là, tu fais des parties kernel, si ça part, ça fait un panique, et puis ta machine, elle fait un bel écran, pas un écran bleu, hein, mais elle fait un beau kernel panique.
Je vais recontextualiser pour les personnes qui nous écoutent, parce que toi et moi, je pense qu'on a cette expérience-là, mais typiquement, moi, je faisais du temps réel, et le C est fait pour adresser des cases mémoire particulières, et quand tu parles de kernel panique, des fois, en fait, quand tu programmes et que tu peux t'adresser directement à des octets de mémoire précis, voire tu peux taper à côté parce que tu as le droit, parce que le système te le permet, tu peux aller taper dans les octets de mémoire du système. Et donc, tu fais planter ton système parce que tu vas écrire des informations où, en théorie, tu devrais pas aller écrire. Parce que tu as besoin de ça pour faire du temps réel et pour faire des trucs ultra rapides, en fait. Parce que c'est ça, en fait, dont on parle. On parle du système d'exploitation, on parle de drivers. Les drivers, ça va écrire des données dans des mémoires de cartes graphiques, de sondes, etc. Et donc je précise pour les néophytes, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, que même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de C, je me rappelle tout ça. Vas-y, continue, René.
Non, bah, je pense que t'as bien résumé. Et voilà, en fait, c'est un langage qui est très... qui est très puissant, en fait, le C, on peut faire énormément de choses, mais voilà, il y a des risques d'erreur, et voilà, c'est ce que Rust essaye d'éviter, c'est toute cette problématique. Alors, il y a tout un tas de classes d'erreurs comme ça, les dangling pointers, les double free, parce que, ben, on peut, par exemple, un truc classique, c'est on réserve de la mémoire, on la libère, et puis on pense qu'on l'a pas, on a oublié qu'on l'a libéré, on essaye de l'accéder de nouveau. Ben voilà, on va chercher des données qui ne sont plus là parce que ça a été libéré avant. Et ben, du coup, ça fait un beau problème, parce que les données qui vont se trouver à cet endroit-là, c'est pas celles qui sont attendues, et du coup il va se passer quelque chose de pas très bien, probablement, qui va probablement amener le kernel à planter.
Alors moi, j'ai pas un avis très très tranché sur le sujet. Par contre, je reste admiratif du travail que des mecs peuvent faire sans avoir de vrais specs et juste en faisant du reverse engineering et arriver à proposer des choses comme ça, c'est juste démentiel. J'arrive même pas à capter que ça aboutisse à quelque chose de bien. C'est vraiment le travail qui est derrière est complètement dément. Pour moi, c'est des extraterrestres, les gens qui participent à ce genre de projet.
Alors, je pense qu'on est un peu sur l'extraterrestre, sachant que, dans les liens, vous pourrez suivre, en fait, il y a un petit peu un certain nombre de... Si vous suivez la personne sur Twitter, elle a un petit peu donné aussi la durée, le temps que ça lui a pris de faire ce driver. C'est relativement rapide, en fait. C'est-à-dire que c'est plusieurs... Voilà, on ne parle pas en années, quoi, on parle en plusieurs semaines. Voilà, c'est relativement rapide. Compte tenu de la difficulté de l'exercice.
Alors, je vois que son Twitter, c'est Lina Asahi, donc j'imagine que c'est une femme. Je suis allé sur sa chaîne YouTube, mais c'est un personnage virtuel, donc je ne sais pas si c'est vraiment une femme. Si c'est une femme, c'est cool. Ce qui m'interpelle et ce qui me pose question en tant que créateur de contenu libre, comment est-ce que les développeurs du noyau Linux et ce genre de choses arrivent à vivre, en fait? Parce que là, on parle de durée et de temps de travail énorme. À moins qu'ils soient comme moi, freelance, et que donc ils arrivent à se vendre très bien à côté, je vois pas trop comment tu arrives à dégager autant de temps, sauf si tu as plus de vie de famille, plus de loisirs et que ton loisir c'est ça. Moi je suis, reste admiratif sur, mais ça, ça fera peut-être l'objet d'une discussion sur le financement du livre.
Bah, après, clairement, je pense que ce genre de profil-là, c'est quand même relativement rare, avec ces connaissances-là, et voilà. Et du coup, c'est des gens qui sont, enfin, qui sont soit sponsorisés, soit, salariés d'entreprises qui les payent à faire ça, je veux dire, je pense. Là, après, malgré tout, quand on regarde les statistiques sur le noyau Linux, il y a quand même une part de hobbyistes, donc des gens qui sont pas affiliés à des entreprises et potentiellement complètement bénévoles.
Eh ben, merci René pour cette news. Alors, c'est le Christophe du futur. Je fais une petite interruption de ce podcast pour vous donner une nouvelle, puisque en fait j'ai été contacté entre le moment de l'enregistrement et le moment de sa sortie par les organisateurs de Kubernetes Community Days France. Et donc je voulais vous en parler dans cet épisode d'Actu DevOps parce que c'est vraiment un sujet d'actu, vous allez le voir. Donc les Kubernetes Community Days France auront lieu le 7 mars 2023 à Paris, au sein du célèbre centre Georges Pompidou. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pas plus tard? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous parler du fameux CFP, Call for Paper. Ça veut juste dire, en fait, on a besoin de vous pour faire nos talks, s'il vous plaît, envoyez-nous vos talks. Du coup, en fait, les Kubernetes Community Days France ont ouvert, justement, la soumission aux talks, et ils vont, justement, le fermer le 31 octobre. Sauf que je leur ai dit que, moi, l'épisode de... d'Actu DevOps que tu es en train d'écouter serait publié grosso modo le 27, je crois. C'est ça, le 27 octobre, et que ça laissait peu de temps. Alors, j'ai négocié avec eux et ils ont accepté de repousser la date de fin de poste des propositions de talk. Tu peux donc, si tu as envie d'aller proposer un talk, tu peux le faire jusqu'au 6 novembre 2022. Alors, c'est quoi le format, en fait? Ils ont plusieurs formats de présentation. Ils ont les conférences de 45 minutes qui peuvent être présentées par une ou deux personnes, les retours d'expérience d'environ 30 minutes sur la présentation d'un outil ou d'un framework qui peuvent être présentées par une ou deux personnes, ce qu'ils appellent les lightning talks en 10 minutes, qui est un format très très court sur un sujet très précis. Et ils veulent aborder, évidemment, les sujets du cloud native et du DevOps. C'est pour ça que je t'en parle, parce que tu es dans un podcast DevOps et cloud, évidemment, cloud native. Hein. Donc, les catégories sont, pour les thèmes, développement d'applications cloud native, intégration continue et déploiement continu, outillage et bonnes pratiques, réseau, sécurité, stockage, data, machine learning ou autres sujets type Crazy Stuff. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière Crazy Stuff, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez envoyer des trucs complètement fous. A priori, ils sont ouverts. Ils donnent la priorité donc aux initiatives et projets locaux, open source et ou communautaires. Ils ne veulent pas de pitch marketing ou commerciaux. Ils veulent des présentations plutôt orientées partage d'expertise et retour d'expérience. Ils n'oublient pas aussi la partie développement avec des talks qu'ils aimeraient liés au développement d'applications. Et ils veulent promouvoir la diversité et les démarches vertueuses comme par exemple l'écologie, les démarches RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, etc., etc. Et ils veulent faire la promotion de la nouveauté et de l'originalité. Et donc, ils encouragent les premières soumissions. Donc, si c'est ton premier talk, tu peux y aller. Tu peux aller proposer ton sujet. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur le site internet cfp.kcdfrance.fr. Mais de toute façon, je mets le lien dans le descriptif de l'épisode, comme d'habitude. J'espère que tu pourras participer et que ce message t'encouragera à proposer ton talk. Et je reparlerai probablement des KCD France au moment du lancement. Voilà, tu vas reprendre ton épisode, il n'y a pas de souci, tu peux rester jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, tu l'attendais depuis le début de l'émission, c'est la fameuse section des outils. Et c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le bal. Et je vais te parler d'un dépôt GitHub, qui est le dépôt de Bergman Harry, qui est le DevOps Exercise. Du coup, c'est un dépôt en fait qui va te permettre de retrouver tout un tas d'exercices et de questions qui vont pouvoir t'aider à apprendre des techniques diverses et variées DevOps SRE. Donc, tu as dessus tout un tas de sujets comme Git, Ansible, le shell scripting, le Python, le cloud avec OpenStack, Google Cloud, Azure, etc. De la virtualisation, enfin bon bref, c'est énorme, il y a tout un tas de trucs, et quand j'ai découvert ce dépôt, je me suis dit, mais ce dépôt est génial, puisqu'il y a plus de 2477 exercices et questions, et il est tenu à jour, puisque je vois que le dernier commit au moment où on enregistre a eu lieu il y a 11h. Donc, il est maintenu, il y a déjà plus de 31 000 étoiles, et plus de 6000 forks, presque 7000, ça veut dire qu'en effet, il y a des gens qui l'ont forké, qui participent. Je ne sais pas combien il y a de contributeurs à ce dépôt-là, mais ça doit être assez énorme. Et j'ai trouvé, je me suis dit, que pour t'apprendre à des diverses techniques, alors évidemment, c'est tout en anglais, hein, mais c'est plutôt intéressant. Un avis sur ce... Est-ce que vous connaissiez déjà ce dépôt-là?
Non. Non. Moi, je veux bien dire un petit mot. C'est, ouais, je pense que c'est pas mal parce que ce qui peut arriver, c'est que, enfin, pour l'avoir vécu, d'avoir un test technique pour un entretien. Et j'avoue que quand j'ai passé ce test technique-là, je savais pas trop sur quoi ça allait porter. Et alors, je pense que c'est vraiment la difficulté au niveau du DevOps, c'est que ça peut être vraiment large. Et c'est vrai que bah, j'avais pas trop pratiqué, enfin, vous trouvez un site comme ça pour avoir un petit peu le type d'exercice qu'on pouvait avoir, et je pense que ça aurait pu, voilà, ça aurait pu bah, m'éclairer un peu plus. Je trouve que ça avait plutôt bien marché, mais voilà, pour se préparer, je pense que c'est bien.
Je pense aussi. Alors j'ai trouvé, il y a 114 contributeurs et contributrices, donc il y en a beaucoup.
Ouais, alors je connaissais pas non plus, et je parcours là, et en plus le format il est pas mal, parce que c'est pas des exercices oppressants, du coup c'est pas mal pour, ouais, pour ces, enfin, on a la réponse dès qu'on expande la question et tout, et c'est plutôt bien fait, regardez deux trois trucs, et non, c'est une bonne, en tout cas ça doit être pas mal pour soit se mettre un peu dans le bain, soit pour se dire est-ce que j'ai les bases rapidement d'un sujet, passer dessus, ça doit rendre un peu plus confiant, donc c'est cool, donc non, c'est une bonne découverte.
Eh ben, tu as la parole, je t'en prie, garde-la si tu veux nous parler d'un langage que j'adore.
Ouais, ça m'a fait marrer, je suis tombé dessus parce que je cherchais... Moi, alors c'est pas un outil, c'est un ensemble de, c'est une initiative qui regroupe tout un tas de petites librairies fonctions pour Bash, donc c'est pour ça que Christophe est content et que d'autres vont probablement criser. Mais ce qui est pas mal, c'est que donc ça s'appelle Pure Bash Bible. Et en gros, il y a tout un tas de cas d'usage où on vous dit, bon, bah, habituellement, à chaque fois, vous refaites des one-liners qui sont pas hyper fiables, ou vous refaites des petites fonctions que vous redéveloppez pour chaque projet que vous faites. Bah, en fait, eux, ils proposent déjà des librairies pour manipuler des strings, pour faire des opérations un peu complexes, etc., etc. Et l'idée, c'est juste bah, de, entre guillemets, copier-coller les trucs qui vous intéressent dans votre code pour en profiter. Moi, je trouvais que c'était une bonne initiative. Pareil, c'est pas des trucs de ouf, mais par exemple, si vous voulez pas avoir à vous prendre la tête à trim les white space d'un string, bah, y a une fonction qui fait ça, copy-colle, hop-hop-hop, c'est réglé, vous l'appelez et ça fera le job, et sans que vous ayez à réfléchir à tous ces sujets. Donc, je sais pas, moi, je trouvais que c'était plutôt cool. Et pareil, c'est bien présenté, c'est que des trucs faciles, c'est facile de contribuer aussi, et ils sont demandeurs de contribution, donc allez voir ça, pardon. Et j'imagine que toi, Christophe, tu auras probablement des petites choses à rajouter dans la liste des 12 milliards, parce qu'il y a vraiment un paquet de choses proposées. Alors, il y a des trucs que je trouve pas très utiles, mais il y a quand même un bon paquet de choses qui sont sympas, quoi.
J'irai voir justement, voir ce que je peux en tirer, ce que je peux en faire et ce que je peux proposer. René, ça t'évoque quelque chose ?
Ouais, ça a l'air pas mal.
Ouais, c'est bien parce que je pense, j'ai parcouru rapidement, mais il y a plein de méthodes qui te permettent de faire des choses rapidement. Et si tu sais pas comment les faire en bash, mais que tu en as besoin dans un script, paf, tu vas aller récupérer ça et tu vas les copier. J'ai vu des trucs, je suis pas très chaud avec eux, notamment les shorten méthodes pour faire des boucles. Ça rend vite ton code illisible. Mais bon, ça, c'est typiquement, quand j'étais développeur, quand j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, j'adorais optimiser mon code et faire le code le plus petit possible. Et on m'a vite appris que fallait pas faire ça. Et maintenant, à mon âge, je comprends pourquoi. Parce que un code hyper optimisé, notamment en C, hein, pour ceux qui ont jamais fait de C, tu peux faire des trucs vraiment illisibles en C. Juste quand tu le lis, tu ne comprends pas ce qui se fait. Et donc, tu peux faire pareil en bash. Hein. Donc, écrivez du code lisible. Je connais.
Tu connais le C obscur?
Non, mais je pense que j'en ai fait.
C'est obscur, en fait, c'est limite une voie où le but du jeu, c'est de rendre le truc le plus compliqué possible, en fait. C'est un exercice, voilà, de style, on va dire.
Non, moi, j'en ai ça le plus simple possible.
J'ai retrouvé le comment je suis tombé dessus. C'est parce que je cherchais à faire un URL des codes en one-liner, quoi. Et je trouvais pas de façon hyper simple. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Donc, allez voir, il y a des trucs sympas.
Bon, René, tu veux nous parler de quelque chose qui va m'aider, je pense, dans l'avenir.
Oui, tu as un petit outil qui a été proposé à un moment sur Twitter par Akanoa. Quelqu'un qui fait des streams justement autour de Rust et plein d'autres choses, et voilà, que je vous encourage à suivre parce qu'il faut aussi de très bons articles. Et en fait, c'est un outil qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Florentin Dubois qui travaille pour Clever Cloud, et ça permet de générer un changelog en deux formats, format Markdown et format mail, pour pouvoir envoyer HTML, voilà, HTML mail, pour l'envoyer vers aux gens sur une mailing list, etc. À partir des commits Git. Donc en fait, il suffit il y a un fichier de paramétrage pour décrire un petit peu le projet, etc. Et après, si on respecte par contre, j'ai perdu le terme. Les guides
conventionnels, peut-être.
Ouais, conventionnel guide. Merci Christophe. Voilà, donc il consiste à mettre un mot clé. Si le commit c'est une feature, si c'est un fix, si c'est de la doc, si c'est voilà. Donc si on respecte un petit cette convention là, en fait ça fait un joli changelog avec les différentes sections et les différents commits qui vont dedans. Donc un outil. Il y a d'autres outils qui font ça, mais celui-là est plutôt sympa. Et il est créé en Rust aussi. Voilà.
Oui, et je vois qu'il y a un contributeur qu'on connaît bien dedans, puisque il y a trois contributeurs, un robot, Florentin Dubois et un certain René.
Oui, j'ai fait une petite. Ça m'a intéressé et j'ai fait une petite merge request dessus parce que en fait l'outil dépendait de NPM à la base et de Rust, et il y avait un moyen de supprimer la dépendance à NPM pour que ça reste plus à limiter le nombre de dépendances, c'est toujours intéressant, et voilà, j'ai proposé, et puis j'ai eu la chance de ce que ce soit mergé.
Exact. Alors je ne peux que t'encourager à utiliser les ces commits conventionnels. De toute façon, quand moi je donne des cours et j'apprends aux gens à utiliser les guides conventionnels, et dans mon équipe, j'impose les commits conventionnels pour Git, pour justement pouvoir faire ce genre de choses qu'on n'a pas encore mis en place, et ben, je pense que je vais tester cet outil pour générer les changelogs, puisque on a quand même maintenant pas mal de logiciels libres qu'on maintient, et je pense que pour notre collection en cible qui installe une host, ce sera pas mal pour faire les changelogs de manière automatique, parce que pour l'instant, c'est Arthur qui les crée à la main. Merci, René.
Je peux rajouter un tout petit mot pour, si vous voulez voir des exemples du changelog que ça génère. En fait, je crois que Clever Cloud développe l'outil qui s'appelle Suzu, qui est un reverse proxy, voilà, avec qui peut se reconfigurer à chaud, etc. Mais et voilà, je crois qu'il génère le changelog de cet outil avec l'outil dont on parle. Voilà.
De toute façon, l'intérêt, c'est de le mettre dans une intégration continue, qu'au moment où tu crées un tag, pouf, t'as ton changelog qui est généré, j'imagine. Erwan, un truc à dire là-dessus ?
Non, je ne connaissais pas cet outil et je cherche désespérément celui que j'utilisais qui se basait aussi sur les conventionnels commits, et je ne retrouve plus son nom. Et...
Bah, si tu le trouves d'ici
donc,
la
du
publication...
Du coup, ce n'est pas intéressant.
Ah ouais,
bah, si, ouais, tu... ouais, si je retrouve, je ferai suivre.
Ça marche. Oui, il y a des alternatives après, hein, y a pas... ça c'est sûr.
Et Erwan, tu veux nous parler d'un repo que j'ai vu aussi apparaître il n'y a pas longtemps.
Ouais, et comme c'est vrai que souvent la documentation qui tourne autour du mouvement DevOps, c'est quand même très souvent en anglais, même s'il y a beaucoup de contributeurs français, bah, il y a Stéphane Robert là, qui a créé un... donc vous pouvez suivre d'ailleurs sur Twitter, il est plutôt actif. Il a créé un repo justement pour centraliser pas mal de ressources qui parlent DevOps, francophone. Et donc du coup, déjà on y retrouve les compagnons du DevOps. C'est bien. Mais il y a plein de choses. Il y a des gens sur Twitter, enfin il y a des comptes Twitter à suivre, il y a des sites, il y a des blogs, il y a moult choses, et du coup je trouvais que c'était vraiment cool comme initiative de faire ça, et pour ceux qui débutent et qui se posent toujours la question de par où je commence, peut-être que ça peut être une bonne porte d'entrée, donc je voulais souligner l'initiative.
Oui, oui, super initiative. Après, Stéphane, il fait très actif dans le mouvement, et ce qu'il fait est de bonne qualité. Et donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un à suivre. Et en l'occurrence, cette initiative, elle est vraiment sympa.
Exactement. Eh ben, je suis aussi Stéphane sur LinkedIn et sur Twitter. En plus, c'est un compagnon qui passe de temps en temps sur le forum. Donc, je te salue, Stéphane. Merci en tout cas pour cette initiative, parce que en effet ça permet de regrouper à un seul endroit les initiatives diverses et variées, puisqu'il y a beaucoup de choses hein, sur Awesome French DevOps. Le lien est dans la description. Vous retrouvez beaucoup de choses, beaucoup de comptes Twitter, de vidéos, de podcasts, etc. Eh ben, merci Erwan de nous l'avoir mis, parce que c'est vrai que je l'ai vu popper cette semaine et j'y ai pas pensé, mais t'y as pensé, c'est cool. Eh bien, je tiens à te dire, à toi, cher auditeur ou auditrice qui nous écoute, que tu peux partager ce podcast, puisque un podcast, si tu ne le sais pas, c'est très dur à faire découvrir, c'est pas comme une vidéo YouTube. Un podcast, il faut que tu l'envoies à quelqu'un, il faut que tu l'envoies par mail, que tu l'envoies sur Twitter, sur LinkedIn, que tu l'écoutes avec d'autres personnes, ou que tu envoies un petit SMS avec le lien du podcast. Ça nous aidera à le faire découvrir, puisque le podcast a une croissance, certes, organique, qui est là, mais c'est pas forcément, elle est pas aussi importante que YouTube, donc je pense que le format audio a justement de l'avenir, donc n'hésite pas à partager le podcast. Je te rappelle aussi que ce podcast est en licence libre, en Creative Commons by SA. Tu peux le découper, l'utiliser dans tes propres vidéos, podcasts, etc. si tant est que tu nous crédites. Et si tu nous envoies un petit message, en plus, ça nous fera plaisir. C'est les dernières choses que j'avais à te dire. Et du coup, je vais laisser les mots de la fin à mes chers co-animateurs. Et je vais commencer par René.
Alors, un petit mot de la fin. Je pourrais dire, n'hésitez pas aussi à contribuer, à faire des... Tout comme Stéphane, voilà, de proposer des choses. Je pense que ça a un double intérêt. Ça permet de partager forcément et d'aider d'autres personnes, mais aussi parfois d'enrichir son compte, quel qu'il soit, GitLab, GitHub, mais voilà, se faire un petit peu de promotion, ça peut être intéressant. On en a déjà parlé lors des entretiens. Voilà, et ce sera le mot de la fin, en espérant que vous avez bien aimé cet épisode, et rendez-vous au prochain.
Tout à fait. Et enfin, Erwan, tu as le mot de la fin de la fin.
Ce sera calepin.
C'est un beau calepin à spirale. Si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas sur YouTube, tu peux aller voir le calepin sur YouTube. Tu verras la vidéo. J'en parle aussi parce que c'est important. Parce que, mine de rien, on peut se targuer d'être le seul média qui, à la fois, est en vidéo sur YouTube et en podcast, puisque on a nos chers collègues qui sont soit en vidéo, soit en podcast, mais pas les deux. Nous, on est un peu les deux. Cocorico. Fait-on ça ensemble. En tout cas, merci à vous deux. Et moi, je te dis... À très bientôt.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.